Je vais essayer de lancer cette séance. Je pense qu'elle va très bien se dérouler sans moi. Je vais être minimaliste dans mes interventions pour que nous ayons le temps de discuter après, parce que je pense que chacun des intervenants a un goût prononcé pour la provocation, donc il y aura de la provocation dans l'air. J'ai à présenter un certain nombre, trois orateurs que vous connaissez déjà. Dans l'ordre, ça va être Olivier Voirol, de l'Université de Lausanne et de l'École de Francfort, dont il représente, je crois, la quatrième génération. Et Olivier Voirol a écrit un livre, a écrit un numéro magnifique de la revue Réseau sur la notion de visibilité. Il y a toute une réflexion sur la visibilité qui n'est pas exactement la même chose qu'une réflexion sur l'image, mais qui ne peut pas ne pas entrer en dialogue avec la réflexion sur l'image. Après Olivier Voirol, il y aura François Jost, qui est professeur à l'Université de Paris 3 et directeur d'un centre de recherche qui porte le très beau nom de Séisme. Alors, lorsqu'il ne provoque pas des tremblements de terre, François Jost est quelqu'un qui met en question toute une tradition dont nous venons tous les deux, qui est la tradition de la sémiotique lorsqu'elle est appliquée à l'image. Il s'agit de refuser un certain nombre de clivages désormais traditionnels, et lorsqu'un clivage devient traditionnel, il a tendance à flirter avec le cliché. Et donc François Jost essaye de combattre un certain nombre de clichés. Enfin, Serge Tisseron, que vous connaissez probablement tous, surtout qu'il y a beaucoup de psychanalystes dans cette salle, et pédopsychiatre, difficile à prononcer, directeur de recherche à Paris 10, et évidemment psychanalyste, et vous avez lu un certain nombre de ses livres. Donc nous avons Serge Tisseron est aussi un certain goût de la provocation, lorsque par exemple, au lieu de parler des horreurs de l'image et des méfaits de l'image, il parle des bienfaits des images. Donc j'ai autour de moi trois pourfendeurs de clichés, et je pense qu'on va bien s'amuser. On commence par Olivier Voirol.
Dans un texte écrit en 1843, le philosophe danois Søren Kierkegaard, à l'issue d'une vive polémique qu'il avait opposée au journal Le Corsaire, s'en prenait violemment à la presse de son temps. Cette presse, à ses yeux, contribuait à faire advenir un public qui, je cite, « détruit tout ce qui est proche, concret et particulier dans l'existence ». Elle produit sans relâche des informations qui vont à l'encontre de l'engagement sérieux dans l'action pour promouvoir une forme de voyeurisme et de divertissement irresponsable, se nourrissant indifféremment de ragots et de scandales les plus divers. De plus en plus, notait Kierkegaard, les individus, nourris de leur indolence livide, n'aspireront à plus rien d'autre que de devenir le public. Ce tout abstrait qui se constitue de la manière la plus ridicule en faisant de chaque participant un tiers, un spectateur. Cette galerie se nourrit du regard de la distraction et s'abandonne à l'idée que toute action est faite pour donner au public une matière à ragot. En suivant Kierkegaard, on est loin d'envisager la possibilité d'une éthique de l'information. À ses yeux, la presse relie des individus devenus indifférents les uns aux autres. Elle crée un espace de l'information et de l'opinion superficiel où se dissout toute relation d'implication entre les actions pratiques situées dans le concret au profit d'informations abstraites sans profondeur. Ces informations sont traitées à distance et reprises dans une longue chaîne, les rendant étrangères aux situations particulières, aux vécus individuels et aux engagements existentiels. Si elle forme un public d'anonymes reliant des êtres et des faits lointains sans lien apparent, la presse est donc avant tout l'opératrice de ce que Kierkegaard appelait une abstraction monstrueuse entre les êtres humains. Loin des regards mutuels entre étrangers concernés, c'est à un détachement indifférent qu'elle incite, dissipant les engagements immédiats de sujets pris dans des situations d'action dont ils sont moralement responsables. Selon lui, donc selon Kierkegaard, c'est ce même détachement indifférent qui caractérise le traitement des faits et des êtres par les journalistes lorsqu'ils rédigent leurs dépêches. L'individu à l'âge médiatique n'est en rien un témoin impliqué, c'est un être indifférent. Il n'est informé qu'en surface de faits lointains qui ne le touchent guère et face auxquels il se fait une opinion sans attache. Il est amené à se prononcer sur tout et n'importe quoi, prodiguant 1000 conseils détachés de tout contexte, sans engager ni sa pratique ni sa responsabilité morale. Dès lors, selon Kierkegaard, les médias effacent le sérieux de l'action humaine et distillent un amusement détaché qui est la ruine de toute implication responsable dans le monde. Kierkegaard en est convaincu. La presse installe cette abstraction monstrueuse, confinant à l'insensibilité morale, à l'effacement de l'engagement pratique et à la pleine attention à l'autre à distance. C'est à la fin de la première partie du XIXe siècle, une époque marquée, on le sait, par de profondes mutations dans les médias, que le philosophe danois formule ses propos. Une époque qui voit l'apparition du télégraphe, la progression rapide d'une presse à visée commerciale. Ce qui m'intéresse surtout chez Kierkegaard, c'est d'une part qu'il a fourni des ressorts critiques essentiels qui contestent toute possibilité de penser les médias comme des lieux de témoignage et d'attention mutuelle entre étrangers. C'est d'autre part le fait que Kierkegaard synthétise une série de critiques à l'égard des médias modernes, vus comme des vecteurs d'une monstrueuse abstraction, disait-il, monstrueuse abstraction entre les êtres, facteur d'indifférence et de démoralisation. Ce discours, on le retrouvera au XXe siècle, certes sous des formes assez différentes, chez des auteurs comme Lukács, Debord, Baudrillard ou bien d'autres encore. Hein. Si ce texte de Kierkegaard sur la presse a été peu commenté, il a donc l'avantage de dégager les formes élémentaires, si je puis dire, d'un registre critique des médias qui a trouvé fortune, dénonçant la froideur de ces derniers, l'absence de point de vue moral, le traitement des faits sur le mode de l'indifférence et de l'abstraction. Mais il va sans dire que l'on se situe ainsi avec Kierkegaard aux antipodes d'une approche des médias comme instance privilégiée de la formation d'un public composé de sujets attentifs et engagés, à distance, dans l'expérience d'être d'autres êtres éloignés, dont le vécu accède à la publicité, notamment sur le mode du témoignage. C'est-à-dire un espace public au sens de la Öffentlichkeit, au sens de Kant et de Habermas notamment, qui est gouverné par la raison pratique, où des êtres séparés dans le temps et dans l'espace se rapprochent grâce à l'attention qu'ils s'accordent sur la base des informations dont ils disposent plus ou moins mutuellement. Il me semble que nous sommes aujourd'hui dans une situation où, d'une part, nous ne pouvons faire l'impasse sur cette critique des médias dans l'examen de la révolution actuelle, et où, d'autre part, cette critique ne suffit plus, car elle nous laisse, bien désarmés face aux mutations contemporaines du journalisme. À l'heure où semblent se dissiper les règles pratiques et les conditions d'exercice d'un journalisme de qualité, la sociologie ne peut se contenter d'une critique ciblant les processus de réification ou de domination symbolique. Elle doit, à mon sens, aider à expliciter le contenu moral implicite des pratiques de construction de l'information, qui peut être une éthique de la monstration, comme le suggère joliment Daniel Dayan. Ce qui revient dans un premier temps à dégager les modalités de construction d'un univers médiatisé de partage d'expériences vécues, se nourrissant notamment des pratiques du témoignage, et qui sont par ailleurs un des fondements de la délibération démocratique. Cela revient, dans un deuxième temps, à reprendre le schéma critique par un autre angle, en cherchant à montrer en quoi ces pratiques de construction d'un espace d'attention publique sont mises à mal, déchirées par les cadres d'exercice de la pratique journalistique à l'heure actuelle. C'est dans ce sens que j'ai dirigé ma recherche depuis un certain temps, en tentant d'esquisser les termes d'une approche des médias capable d'articuler l'héritage de cette critique de la réification, tout en considérant le contenu normatif et moral des pratiques journalistiques comme lieu majeur de la construction de la factualité et du témoignage. Une factualité à partir de laquelle s'ouvre et se redéfinit sans cesse un espace commun de connaissances nécessaires à toute collectivité. Je pars de l'idée que les pratiques journalistiques sont celles par lesquelles des faits rapportés souvent sur le mode du témoignage, mais pas seulement, accède à la visibilité et à la reconnaissance publique. C'est par cette publicisation d'une factualité, de ce qui se passe, qu'une collectivité élargie est à même de prendre connaissance de ce qu'elle est et de ce qu'elle devient, de réfléchir sur les événements qui la constituent et sur ses transformations. Tout cela s'opère dans un processus sans cesse reconfiguré de construction discursive et normative d'un horizon de définition d'une factualité partagée. Et c'est parce que les membres de cette collectivité en recomposition peuvent partager un horizon commun doté d'une définition de ce qui se passe, c'est-à-dire du socle finalement de la réalité sociale, pour dire vite, qu'ils peuvent entrer en conflit sur des versions divergentes et peuvent se disputer sur ce qu'il faut faire face à ce réel. Si ces processus s'opèrent constamment dans la pratique ordinaire, dans une société hautement médiatisée faite de relations entre étrangers, il se déploie amplement sur une scène médiatisée du discours et de l'image. Ce sont les pratiques journalistiques et les médias modernes qui permettent la constitution sans cesse renouvelée de cet espace de la factualité qui permet une connaissance et une interprétation de soi dans une collectivité élargie. Si l'on prend acte de cette dimension fondamentale des pratiques journalistiques, sans renoncer au constat de Kierkegaard, on fait face à un défi théorique de taille, car on a là deux thèses qui s'opposent diamétralement. C'est en dégageant deux modèles de pratiques journalistiques correspondant d'une part à ce que j'appelle l'exploration et d'autre part, à l'oblitération, qu'il me semble possible de voir les pratiques journalistiques non pas comme relevant uniquement de la monstrueuse abstraction dont parle Kierkegaard, ou au contraire de la seule éthique de l'information, mais comme des pratiques traversées par une tension fondamentale. Le premier processus caractérisant les pratiques journalistiques, celui de l'exploration donc, part du principe que le travail des médias consiste à prendre acte des occurrences de la vie sociale et à restituer la pluralité des interprétations de cette factualité. Il ne consiste ni à nier ces occurrences, ni à restituer un point de vue unique. On sait toutefois qu'un fait ne se révèle jamais par lui-même. Il présuppose une opération de qualification, d'identification. Il est pré-identifié selon des catégories de pertinence qui le font apparaître dans sa science sémantique. Lorsqu'elle relève de l'exploration, la pratique journalistique s'enquiert de versions plurielles en enquêtant sur ce qui se passe pour composer une polyphonie de versions. Guidée par un cadre d'attention préalable, une exploration est surtout un cheminement par lequel des prédéfinitions et des qualifications premières sont soumises à l'examen et dont le produit n'est pas donné par avance. Le propre de la pratique journalistique est alors de construire par des mots et des images une factualité à partir d'une occurrence sociale par l'exploration de points de vue, de témoignages et de jugements multiples. L'exploration est alors un cheminement vers l'assemblage des versions à travers l'accumulation pondérée des points de vue. Plus ce processus est mené avec sérieux, plus la gamme des versions susceptibles de venir nourrir cette factualité est ample, et plus la factualité construite par les médias est à même de proposer un référent commun face à ce qui se passe. Mais aussi, plus ce processus pratique d'exploration se met à l'écoute de l'expérience sociale, de ce qui se passe, et plus elle est à même de conférer à la factualité une existence médiatisée non réifiée, permettant elle-même la poursuite du processus exploratoire chez les membres du public qui en deviennent du coup les témoins. L'exploration est donc une pratique qui prend forme du fait que différents acteurs entrent en lien indirect par l'effort de définition qu'ils déploient pour définir ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Elle aboutit à une mise en récit faite de mots et d'images suffisamment plurielles pour agréger des versions différentes et restituer leur multiplicité. Il n'aboutit pas à une addition, mais à une agrégation des points de vue sous la forme d'un condensé pluriel. Ainsi, la pratique exploratoire du journalisme n'est pas, au sens strict, un témoignage, mais un témoignage de témoignage. Ce qui différencie le témoin du journaliste, c'est que ce dernier opère à partir de points de vue déjà existants Il est rarement un témoin au jeu, bien que cela se produise dans certains cas, notamment dans le direct. Il est souvent amené à dire « eux ». L'assemblage dans un récit de mots et d'images constitue alors ce qu'on pourrait appeler une interobjectivation, soit une capacité de construire dans des pratiques communes, par des témoignages et des prises de position, une définition de la factualité, autrement dit une définition de ce qu'est la factualité du monde à partir duquel nous accédons à la connaissance de ce qui se passe et que nous interprétons ce que nous sommes. Les pratiques journalistiques relèvent indéniablement de l'exploration, mais pas seulement. Elles relèvent également de ce que j'appelle l'oblitération. À cette pratique de l'exploration, donc, il convient de combiner ce processus d'oblitération. Si elle part, à l'instar de l'exploration, d'un cadre d'attention préalable pour identifier des occurrences pertinentes, voire éventuellement en définissant d'emblée ce qui relève de l'occurrence ou non, la pratique de l'oblitération tend à définir ce qui se passe en déterminant un ordre inquestionné de pertinence. Loin d'être sollicité par une occurrence appelant un geste exploratoire et de se frotter à des situations faites de versions multiples et parfois contradictoires, l'oblitération procède par imposition d'une focale normative. Elle part d'un cadre préalable permettant de voir une situation sans la réinterroger par le processus d'enquête. L'oblitération reste sourde à l'expérience sociale et à ses appels en termes d'interprétation. Les pratiques d'oblitération journalistique sont enfermées dans un cadre de pertinence défini à travers les grilles interprétatives et le système de contraintes d'un registre destructif très formaté, peu perméable à la factualité émergente, voire incapable de reconnaître cette factualité dans certains cas. Dès lors, les modalités de mise en récit et de mise en image n'émanent pas de l'exploration pratique, mais de routines établies et standardisées qui s'appliquent sans égard aux situations particulières. Ainsi, l'oblitération ne part pas d'une expérience pour se traduire en mots et en images, mais de mots et d'images préétablis qui incarnent cette expérience. Elle ne part pas de l'expérience vécue, mais des règles de conditionnement de la pratique journalistique et de ses formats standards, des formules discursives et des schémas typifiés valorisés par l'entreprise médiatique. L'oblitération actualise par conséquent des manières de raconter et de montrer qui sont à l'œuvre de façon répétitive dans le système médiatique. À ce niveau de l'oblitération, il y a indéniablement un effacement du témoignage et de sa force informative. Ce dernier n'est intégré et utilisé qu'à des fins démonstratives. Tout compte rendu sur la factualité est alors intégré d'emblée dans un format narratif institué, indépendamment de son ancrage dans l'expérience et de son pouvoir de témoignage. Il ne s'alimente de témoignage que lorsque celui-ci s'insère au bon endroit, de la bonne manière, en vertu d'une définition implicite du bon témoin spécifique à telle ou telle situation montrée. On assiste ça tous les jours dans les informations télévisées, à ce type de typification extrêmement schématique. Enfin, loin de participer à la construction collective et multiple de la factualité du monde, les pratiques journalistiques d'oblitération contribuent à la fixation et à la réification de cette factualité. Non seulement les faits sont cultivés en tant que tels, mais le processus exploratoire s'en trouve en quelque sorte figé. C'est alors la capacité même d'une collectivité à construire de manière plurielle sa factualité qui se trouve mise à mal. C'est alors la possibilité également de construire un monde commun, comme dirait Arendt, de ce qui se passe à partir duquel se déploie une interprétation partagée qui est remise en question. Il en va alors, à mes yeux, de la capacité d'une collectivité de s'auto-interpréter de manière suffisamment riche et pertinente et de construire un horizon normatif et sémantique commun dans son rapport à la factualité. Je pense que les pratiques journalistiques sont traversées simultanément par ces deux processus d'exploration et d'oblitération. Il y a toutefois des conditions qui permettent ou qui encouragent l'une ou l'autre de ces modalités de la pratique journalistique. C'est sur ce dernier point que j'aimerais m'arrêter en guise de conclusion. Je pense que l'on a assisté au cours de ces dernières années dans le monde du journalisme et des médias en général, à des processus et des évolutions qui ont fait dramatiquement pencher les pratiques journalistiques du côté de l'oblitération. Je mentionnerai tout d'abord la tendance à la disparition de l'enquête exploratoire, qui va de pair avec la tendance à privilégier le journalisme assis et sur écran au détriment du journalisme debout en prise avec l'expérience. J'évoquerai également la tendance à renforcer le poids des formats narratifs, par exemple dans le raccourcissement des reportages, les schémas imposés de construction du récit qui encadrent jusqu'au journalisme d'investigation. Je mentionnerai également la volonté de réduire les coûts de production qui se traduit par des coupes sombres dans le domaine de l'investigation. Et on peut aussi évoquer la tendance dramatique à l'intensification du travail journalistique qui interdit le temps de l'écoute, du recueil des témoignages pluriels, toute cette patience de l'exploration qui est broyée par une accélération pesante. Enfin, la montée du journalisme en ligne qui travaille essentiellement sur des banques de données contribue également, me semble-t-il, à ce processus. Enfin, j'évoquerai la marchandisation croissante qui a pour conséquence de privilégier des récits et des images très typifiées par peur de l'insuccès, selon le principe de l'équivalence ou de l'image omnibus, l'image passe-partout. Tout récit ou image qui contredit ces schémas types sont écartés d'emblée car jugés trop risqués en termes de succès commercial. Les récits ou les images, parfois, sont plus proches de la factualité et les plus proches de la factualité et de l'expérience vécue sont ainsi mises au ban d'emblée. Il me semble qu'il y a effectivement à défendre aujourd'hui une éthique de la monstration, comme l'appelle Daniel Dayan, en faisant en sorte de contribuer, dans la mesure de notre possible, bien évidemment, au déploiement des pratiques exploratoires du journalisme et en empêchant l'extension des pratiques d'oblitération. Autrement dit, la nécessité de faire une critique du journalisme et de ses évolutions vers l'oblitération et donc, dans une certaine mesure, de rejoindre le point de vue de Kierkegaard. En même temps, cette nouvelle posture implique, sans doute contre Kierkegaard cette fois-ci, contre Debord, contre Baudrillard, contre cette tradition critique, de faire ressortir la dimension morale des pratiques d'exploration et la portée démocratique essentielle du journalisme. À mon sens, et ce sera là mon dernier mot, cette nouvelle posture critique passe inévitablement, au niveau de la théorie des médias, par une conceptualisation adéquate de ces deux modalités, donc de l'exploration et de l'oblitération, et par une juste compréhension des processus pratiques et des conditions qui rendent tour à tour possible le déploiement de l'une ou l'autre de ces modalités. Je vous remercie pour votre attention.
Alors, après ce, comment dirais-je, la référence au lamento de Kierkegaard, puis à la mise en tension entre les deux notions d'exploration et d'oblitération, mise en tension qui permet de reprendre la critique, mais de la reprendre à un niveau dialectique, en laissant la porte ouverte à la possibilité de médias qui soient capables de répondre à une éthique. Je passe la parole à François Jost.
Merci. Je ne sais pas si je serai aussi provocant que tu le souhaites, mais bon, je ne pense pas. L'après-midi avançant, les différents intervenants disant des choses sur le témoignage, je partirai de ce qu'on peut constater à cette heure de l'après-midi, je crois, c'est la très grande extension du mot témoignage. On a eu beaucoup de sens du mot témoignage et moi j'en distinguerai trois pour essayer de clarifier les choses au départ. Il y a le témoignage oculaire dont on a déjà parlé, qui est le plus connu. Il y a aussi le témoignage dont Dominique Mail a parlé tout à l'heure en le rejetant un petit peu du côté de la télépoubelle et en me laissant assumer maintenant, qui est celui des disons par exemple de celui qui vient chez Delarue pour dire qu'il aime deux personnes à la fois ou des choses comme ça et qui témoigne de ses sentiments. Et il arrive même dans les réunions savantes, j'ai souvent entendu même dans les colloques, que le président se tourne vers quelqu'un et dise merci de ton témoignage. Donc le mot propos est extrêmement polysémique et finalement, si on essaye de résumer les choses, il désigne des choses aussi larges, aussi différentes que le vu, le vécu et le pensé. Hein, trois choses qui sont très différentes. Donc ce premier constat justifierait à lui seul mon titre, tous les témoignages ne se valent pas. Mais il y a un deuxième constat qu'il faut ajouter avant de commencer à réfléchir sur le témoignage. C'est évidemment le fait que le témoignage télévisuel encastre, je dirais, deux niveaux. Il y a d'une part des images qui témoignent des événements qui ont eu lieu et qui sont témoignages parce qu'elles sont produites par contact avec la réalité, c'est-à-dire les images argentiques ou les images vidéo ou les images, enfin toutes les images filmiques. Et à ce titre-là, je ferai personnellement une grande différence entre les tableaux et les photos. Pour moi, ça, je ne peux pas les identifier l'une à l'autre, effectivement, parce que les tableaux sont des indices somatiques, c'est-à-dire qu'ils sont la trace de la main qui les a tracés, alors que les photos sont des traces du monde, même si elles font intervenir dans un second temps, et c'est la deuxième chose qui m'intéresse, la place de celui qui les a captées dans le monde. En d'autres termes, les images peuvent témoigner tantôt du monde, tantôt de celui qui est en creux et qui a pris ces images du monde. Alors, cette double distinction, donc le témoignage, la nature du témoignage comme vu, pensé ou ressenti, et le témoignage télévisuel, doit encore être compliqué par un troisième niveau, qui est une question qu'on n'a pas posée, comme si le témoignage était transparent. À quoi sert le témoignage dans un discours télévisuel, à quoi sert le témoignage dans une émission de télévision. Alors j'essaierai de répondre à ces trois questions rapidement dans les 20 minutes qui me sont accordées. Alors d'abord, premièrement, quel est le régime de vérité des différents témoignages que j'ai distingués? Les narratologues ont l'habitude de distinguer entre deux types de récits à la première personne, ceux où le narrateur parle d'événements qui sont vécus par d'autres, dont justement il est témoin, un peu comme Watson qui raconte l'histoire de Sherlock Holmes, et ceux dont il est le héros. Cette distinction entre les récits à narrateur témoin et à narrateur héros fait déjà une première, nous permet de tracer la distinction entre les témoins oculaires et les témoins qui viennent parler de leur vécu et de ce témoin donc qui raconte par exemple qu'il aime deux femmes à la fois. Le témoin oculaire rend compte de son regard sur la réalité, mais donc d'une intériorité. Mais le résultat du témoignage oculaire est de rester à l'extérieur du monde, qui n'est compris que comme ce qu'il apparaît, c'est-à-dire comme un phénomène. Donc le modèle épistémologique sous-jacent au témoignage oculaire, c'est que la réalité ressortie au sensible, et le paradoxe, je dirais, du témoignage oculaire, c'est qu'il vise par son témoignage à traduire objectivement ce qui est apparu, mais que nous savons, par ailleurs, qu'il ne rend compte que d'un point de vue sur le réel, par définition donc contestable, comme le savent tous les psychologues, et même peut-être aussi les psychiatres, les psychanalystes. Je l'ai rajouté juste pour m'abuser. Le second type de témoignage, c'est-à-dire celui, le témoignage du vécu, rencontre lui directement d'une impression, d'un sentiment, d'un avis, d'un jugement sur le monde, qui habite l'esprit de la personne qui parle. Par exemple, ceux qui viennent s'exprimer chez Delarue pour dire ce qu'ils ont ressenti à aimer deux personnes à la fois ou à perdre un animal de compagnie ou avoir des tocs, expriment un point de vue qui ne prétend pas décrire objectivement le monde, mais qui prétend traduire leur ressenti. Donc, comme les récits en focalisation interne pour les narratologues, leur témoignage est restreint par le foyer qu'est leur conscience. D'où un paradoxe dont les termes inversent ceux du témoignage oculaire. Le témoignage vécu ne prétend pas porter un regard objectif sur le monde, et pour cette raison, il apparaît incontestable, comme le note justement Dominique Mel. Elle l'a rappelé tout à l'heure quand elle dit, par exemple, « La parole ordinaire est indiscutable, car nul ne peut, sauf après enquête et devant un tribunal, mettre en cause la parole du malheur proférée à la première personne dans une thématique du vécu personnel. Donc le témoin oculaire et le témoin du vécu ne relèvent pas du même régime de vérité. Dans la mesure où tous les deux tiennent des assertions sur le monde, ils devraient l'un et l'autre obéir aux règles de l'assertion définie par un philosophe du langage comme John Searle, c'est-à-dire être en mesure de prouver ce qu'ils disent, croire à ce qu'ils disent, la sincérité, et parler pour apporter des informations nouvelles, la règle de politesse. Or, quand ces deux types de témoins contreviennent à ces règles de l'assertion, c'est pour des raisons différentes. Le témoin oculaire ne peut en général s'appuyer sur autre chose que sur un argument d'autorité, bien montré par Renaud Dulon, qui est « j'y étais ». S'il répond à une interview après un accident, il peut commettre des erreurs qui relèvent de défauts de la perception, de défauts de mémoire ou de la difficulté à voir dans des circonstances où il se trouvait. Ou qu'il relève encore de la difficulté à trouver les mots pour décrire l'événement. Le témoin oculaire balance toujours entre un Fabrice à Waterloo et un « tu n'as rien vu » à Hiroshima, asséné par l'héroïne à son amant japonais. Le régime de vérité du témoignage vécu, lui, contrevient plutôt à la règle de sincérité. Un témoin peut raconter une expérience qu'il n'a pas vécue ou ne pas dire vraiment ce qu'il a ressenti. Nous ne sommes plus dans l'erreur, mais dans le mensonge, ou plus exactement dans ce que Käthe Hamburger a appelé, que j'ai repris, la feintise. Le locuteur fait comme s'il disait la vérité, comme s'il était sincère, alors qu'il invente son témoignage. Cette situation est encouragée par la télévision, qui, recourant constamment à ce que les producteurs appellent un appel à témoins, publié dans Libération ou ailleurs, encourage les affamés de notoriété médiatique à s'inventer des vies. Ainsi, on a vu récemment, par exemple, une même jeune femme, dans diverses émissions, témoigner tour à tour de sa vie de championne et de sa maladie du cancer, ou un jeune homme aller successivement sur un plateau sur M6, Sacré Laurence, sur France 3, C'est mon choix, et sur France 2, De la rue, pour dire, dans l'émission « Peut-on s'aimer d'amour quand on ne fait plus l'amour ?», pour expliquer qu'il préférait fantasmer sur Carla Bruni plutôt qu'avoir de relations sexuelles avec sa femme. Témoignage qui a été accepté comme vrai par de la rue. Si ces feintises sont possibles, c'est parce que le témoignage verbal porte en lui une forte crédibilité qui tient simplement au fait qu'il est dit à la première personne. Le jeu, comme dit Käthe Hamburger, est moins fictionnel que les autres pronoms parce qu'il évoque immanquablement un sujet d'énonciation déterminé, individuel, donc historique au sens le plus large, un jeu origine réelle, dont le terme historique ne veut pas dire témoin de l'histoire, même si ça peut être le cas, mais incarné par un individu dans la réalité. Alors, ceci étant dit, maintenant, à quoi sert le témoignage dans une émission de télévision ? C'est sans doute sur ce point du fait que le témoignage renvoie forcément au vécu que la question d'éthique va commencer à surgir. Si parce qu'il est témoignage, le récit à la première personne donne toujours l'impression de renvoyer à l'expérience individuelle, il s'en fout de beaucoup que ça soit toujours le cas. L'insertion du témoignage dans une émission, la place qu'on lui donne, sa fonction, infléchissent le sens de ce récit à la première personne. Pour étayer cette thèse, que résume mon titre « Tous les témoignages ne se valent pas », je vais avoir recours à une typologie que j'ai faite dans un livre paru il y a quelques années qui s'appelle « La télévision du quotidien ». Je ne vais pas démontrer la légitimité de ma typologie, je renvoie au livre pour ceux que ça intéresse, mais les résultats. Je distinguerai trois usages du témoignage dans les émissions de télévision très différents qui montrent qu'ils ne se valent pas. Premier, c'est ce que j'appelle le témoignage historique. Témoignage historique, ça désigne tous les témoignages qui mettent en jeu justement ce que j'ai appelé tout à l'heure le jeu historique, c'est-à-dire la personne individuelle, le sujet individuel qui a vu ou vécu quelque chose. C'est de lui qu'on parle en général quand un journaliste vient interroger un témoin oculaire après une catastrophe ou un attentat. Le genre de prédilection de ce type de témoignage, c'est le journal télévisé. L'efficacité du témoignage se mesure alors en termes d'information. Il est censé augmenter la connaissance que nous avons du monde. Et de ce point de vue-là, je dirais par exemple quand un journaliste met le témoignage d'un chômeur pour expliquer que le marché du travail est reparti, ce témoignage ne sert absolument à rien puisqu'il n'informe pas, il est comme aurait dit Kant, un jugement analytique, c'est-à-dire c'est déjà contenu dans la première information. Deuxième type de témoignage, le témoignage théorique, et c'est celui qui nous intéresse déjà plus. Ici, l'individualité du témoin n'a plus d'importance. Il est choisi parce qu'il permet d'illustrer une situation ou un type de personne. C'est le cas, par exemple, de toutes les émissions de la rue, comme ça se discute. Hein. Comment vit-on quand on ne se sent pas femme ? Demande de la rue le 8 septembre 2004 sur France 2. On peut prendre n'importe qui pour répondre à cette question, n'importe quelle personne recrutée par un appel à témoins. C'est-à-dire que le témoignage ne joue plus comme trace de l'individu, mais comme exemplum, comme on disait dans la rhétorique médiévale, c'est-à-dire un récit bref donné comme véridique et destiné à être inséré dans un discours pour convaincre un auditoire par une leçon salutaire. C'est la définition qu'en donne Le Goff, Schmitt et Brémond. Cette interchangeabilité du témoin s'observe dès son recrutement. Hein, on le trouve par petite annonce dans Libération ou par le biais des associations dont a parlé tout à l'heure Dominique Bell. Et le témoin devra dès lors jouer le rôle qu'on lui assigne. On sait très bien que, et moi-même j'ai été interrogé parfois par des assistantes de la rue pour préparer des émissions, que dès qu'on va sortir du chemin qui est tracé par l'animateur, on se fera ramener au silence. Le champ de souveraineté de ces témoignages, c'est d'abord le talk show, mais pas seulement. Le JT y a aussi recours. Comme le journaliste, par exemple, comme le journaliste ne peut pas intervenir dans son propre nom, la plupart du temps, il vous contacte pour représenter une chose qu'il a envie de dire, mais qu'il ne peut pas dire parce qu'il est journaliste. Donc là encore, les témoins sont interchangeables. Il suffit qu'ils expriment la position tracée en creux par le discours du journaliste. Dans cette mesure, les témoignages théoriques ne sont pas véritablement des informations. Hein. Ils n'apportent pas vraiment un nouvel élément à la réalité. Ils ne font que confirmer ce que pense le journaliste. Ils sont donc plus de la confirmation que de l'information. Et le témoin est un haut-parleur, je dirais au sens propre du terme, du journaliste. Troisième type de témoignage, le témoignage pragmatique. Alors, les producteurs des reality shows, notamment Pascal Brugnaud, ont insisté, et Dominique Bell, sur la vertu thérapeutique de tes témoignages intimes. La télévision mettra en place certaines émissions pour soigner un petit nombre de personnes. Cette façon de voir passe sous silence de l'autre point de vue, c'est à savoir qu'est-ce que le témoignage exerce comme action sur le spectateur. Et là, évidemment, c'est pas le téléspectateur n'est pas soigné par le témoignage. Hein. Alors, j'appelle pragmatique cette action hein, que va avoir le témoignage sur le spectateur, et notamment, le but principal du témoignage sera de susciter l'émotion chez le téléspectateur. Ces témoignages pragmatiques ont commencé très fortement avec les reality shows dans les années 90, témoignages d'une mère qui se révolte sur le jugement rendu à propos de son fils dans Témoin numéro 1, témoignage sur un père qui a vu sa fille disparaître dans Perdu de vue, ou témoignage d'une amie, d'une prostituée assassinée qui considère que l'enquête de police n'a pas été faite. Mais le champ d'élection, évidemment, le terrain d'élection de ces témoignages, c'est le talk show, où il ne s'agit plus ni d'informer ni de confirmer, mais d'abord d'émouvoir le téléspectateur. Donc je dirais que du même coup, la logique du témoignage n'est plus la même. Il s'agit d'une logique de l'accumulation, où les témoignages n'apportent plus d'informations, mais font que ressasser une idée jusqu'au moment atteint par le climax, qui est mesurable par les pleurs versés. Dernière partie, pour rester dans les temps, de quoi témoignent maintenant les images ? Parce que c'est vrai que j'ai parlé jusqu'à présent des témoignages verbaux, mais j'ai fait comme s'ils n'étaient pas filmés. Alors, rajoutons cette dimension de l'indicialité du témoignage filmé. Premièrement, je remarquerai que dès 1954, dès les années 50, les journalistes ont eu à cœur de dire à la télévision qu'ils montraient ce qu'ils avaient vu sur le terrain, que le journaliste était donc lui-même le témoin majoritaire. J'en prends pour exemple une émission qui s'appelait « Ce que j'ai vu chez vous » de Roger Louis et Marcel Buval, qui allait enquêter sur le milieu paysan. Mais dans les années 50, le montage dont on parlait tout à l'heure, qui imprégnait alors les documents filmés, grâce à un matériel très lourd, je le rappelle, allait d'une certaine façon à l'encontre du but qui était affiché par le journaliste. Dans la mesure où les caméras étaient très peu mobiles, dans la mesure où elles n'étaient pas sonores, etc., on donnait à voir une réalité totalement coupée du corps, une réalité totalement désincarnée, avec des plans fixes, des angles qui raccordaient, etc. Dans les années 60, avec l'arrivée de la caméra éclair-coûtant, l'apparition des pellicules extrêmement sensibles, des possibilités nouvelles de filmer se font jour et l'image commence à se coller au corps, je dirais. C'est-à-dire qu'on sent dans l'image non plus seulement le monde, mais la trace de celui qui filme, du filmeur, qui fait corps avec l'image. Cette trace a endossé maintenant la valeur du témoignage, bien plus que ce qu'elle montre. Depuis la vidéo légère, puis maintenant le téléphone portable, ça a continué dans la même voie et on a une rupture fondamentale dans la rhétorique de l'image, alors que jusque dans les années 70, les images qui passaient à la télévision devaient être d'une qualité dite « broadcast », c'est-à-dire au standard de la télévision. Aujourd'hui, au contraire, on affectionne dans les rédactions l'image qui est de mauvaise qualité, qui a l'air d'être une caméra prise par une caméra amateur ou un téléphone, parce qu'elle paraît plus authentique que l'image broadcast. Donc, la valeur des images tient, et leur force argumentative ne dépend maintenant que partiellement du regard. Elles rendent compte surtout beaucoup plus du sentiment du vécu. C'est-à-dire qu'elles sont passées du témoignage oculaire au témoignage vécu. Et pour cette raison, c'est ce que j'appelle des images somatiques. Elles sont à l'opposé des images désincarnées de cinq colonnes à la une, puisque c'est leur mouvement même qui prouve l'authenticité des faits. Nul n'exprime mieux cette sensation que ce qu'on a vécu lors du 11 septembre, entre la différence entre l'image prise de la tour de CNN, image désincarnée, image divide, nobody's shot, aux images qu'on a vues apparaître un tout petit peu plus tard, qui étaient celles prises par les passants, qui montraient des passants dans la rue, se cachant derrière les voitures, voyant arriver le nuage de débris, etc. Et ces images, tout d'un coup, qui ne montraient rien, parce que finalement on ne voyait rien, étaient vraiment celles de Fabrice à Waterloo, pour le coup. Donc, en même temps qu'elle affirme la présence d'une subjectivité au cœur des événements, c'est les images, donc tournées maintenant en caméra cachée, sont données comme les preuves les plus objectives de ce qui s'est passé. Et c'est bien le paradoxe d'une émission, par exemple, récente comme « Les Infiltrés » sur France 2, dans laquelle un journaliste se fait enrôler dans un milieu professionnel donné, maison de retraite, magazine People, supermarché low cost, et filme à l'insu des employés. Bien que la caméra rende compte d'un angle très partiel, le document paraît plus authentique parce que la caméra n'interagit pas ouvertement avec ce qu'elle filme. Donc, dissocié de l'œil, planqué dans un sac, je dirais l'œil était dans le sac et regardait, etc., elle retrouve donc dans l'ancrage du corps sa force argumentative, une sorte d'objectivité. Donc, pour conclure, je dirais, pour ramener au sujet donc, qui nous préoccupe de l'éthique, que le témoignage télévisuel ne peut être assimilé au témoignage ordinaire, comme je l'ai essayé de le montrer, du seul fait qu'il est intégré dans un discours qui en transforme la teneur. S'il pose un problème éthique, que nous avons à réfléchir dans ce colloque, c'est qu'il opère toujours subrepticement un glissement. S'appuyant sur la nature essentiellement individuelle de tout témoignage, il se fonde sur une idée de la vérité qui s'assimile à la fois à la sincérité et à l'authenticité du locuteur, alors que pour le montreur d'image, il est toujours un exemple homme parmi d'autres qui aurait tout aussi bien pu faire l'affaire. En ce sens, tout témoignage télévisuel se donne pour la parole de celui qu'on voit, alors qu'il témoigne de la pensée d'un autre qui, lui, s'avance masqué.
Merci beaucoup pour cet exposé qui prolonge directement l'exposé précédent, puisqu'il me semble que dans ce que vient de dire Jost, il était beaucoup question de ce qu'on a appelé tout à l'heure l'oblitération par rapport à la capacité d'exploration, et tout le côté subreptice et de s'avancer masqué renvoie à cette sorte de préexistence d'un certain nombre de formats qui vont déterminer le montrable. Je me tourne maintenant vers Serge Tisseron et je te laisse.
Merci Daniel. Alors d'abord, je vous informe, je suis obligé de partir à 18h, donc n'en soyez pas étonnés. Alors merci à Daniel de cette invitation. Puis alors Daniel m'a bien embarrassé parce que je me suis un peu demandé de quoi j'allais vous parler. Alors la première idée sur laquelle je suis parti, c'est l'idée que toute image soit un témoignage. Ni vrai, ni fausse, mes points de vue. François Jost vous en a parlé. J'ai pensé en effet qu'il en serait beaucoup question aujourd'hui. Toute image est tellement aujourd'hui construite comme un point de vue que d'ailleurs c'est un peu la règle qui prévaut chez les gens qui vont sur Internet, de les considérer comme ni vrai, ni fausse, ni a priori, ou si c'est pas la règle qu'ils adoptent, c'est celle qu'ils devraient adopter. Alors on voit d'ailleurs de plus en plus de longs métrages de fiction aujourd'hui qui miment cette qualité des images. On a fait une soirée récemment au Forum des images, où il y avait pléthore de films qui utilisaient ce subterfuge d'images qui semblaient être des témoignages, donc filmés à la caméra ou à l'appareil photo, filmés au téléphone mobile, à l'appareil photo numérique, donc des films comme Cloverfield, Rec, Redacted, After School, etc. Donc j'avais pensé vous parler de ça, et puis j'ai pensé que c'était peut-être mieux, comme beaucoup allaient vous aborder ce point de vue, justement, de vous parler de la réception des images et de la réception des témoignages. Qu'est-ce qui fait que nous donnons valeur de témoignage à une image qui nous est montrée, alors que nous ne donnons pas forcément cette valeur à une autre image ? Alors tout d'abord, je voudrais quand même dire deux mots sur deux interventions qui ont été faites tout à l'heure, celle d'Annette Wieworka, parce que quand même, elle a dit quelque chose qui questionne drôlement le psy. Elle a dit il y a toujours deux axes autour de ces questions de témoignage, l'axe de la vérité et l'axe du respect de l'individu. Alors ça, c'est extrêmement vrai, hein, pour avoir longtemps travaillé sur les secrets, je crois que j'ai été content qu'elle dise cela. Et je crois que la question est très bien posée, puisqu'on a parlé de déportation, par Georges Semprun. Georges Semprun explique dans l'écriture ou la vie, que lorsqu'il est revenu de déportation, il avait décidé de ne rien dire de ce qu'il avait vécu, parce que c'était trop impossible, inimaginable pour lui d'arriver à en parler. C'est le choix opposé à Primo Levi. Mais comme Georges Semprun était beaucoup questionné, bien sûr, sur ce qu'il avait vécu, il répondait, mais il racontait des histoires que lui avaient racontées d'autres déportés. Donc c'était bien une forme de témoignage. Après tout, il avait été déporté, mais il racontait des histoires que lui avait raconté d'autres. Vous voyez que là, la question de la vérité et la question du statut des témoins sont complexes à démêler. Alors par rapport à ce qu'a dit Barbara Zelizer, vous allez voir qu'elle a abordé les choses d'une manière que je vais continuer dans mon intervention, puisqu'elle nous a finalement montré que des images fixes. Elle ne nous a pas montré d'images animées. Or, je vais essayer justement de vous montrer dans ce que je vais vous dire que les images fixes sont un matériau bien plus frappant pour l'imaginaire, hein, un matériau bien plus facile à utiliser pour notre imaginaire. J'avais mené, elle a montré des images de la fusillade autour de Mohamed Al-Dura, et j'avais mené une petite enquête avec le journal Libération à l'époque, et on avait montré que lorsqu'on demandait aux gens de raconter ce dont ils se souvenaient, les images dont ils se souvenaient de cette fusillade, ils ne racontaient pas des images animées qui étaient pourtant passées en boucle à la télévision, ils racontaient des photos, des images fixes qu'ils avaient vues dans les journaux. Alors pourquoi ? Parce que ces photos mettaient en route leur imaginaire, alors que les images animées les prenaient dans un récit dont ils n'étaient pas le maître. S'il racontait la séquence animée, il se coulait dans le récit qui leur avait été imposé par le réalisateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut se contraindre à faire, mais ça ne nous est pas naturel. Le plus naturel, c'est de prendre une image et de la tricoter. Alors maintenant, quel fil rouge est-ce que je vais utiliser ? Tout simplement le fait que la relation que nous établissons avec les images matérielles qui nous entourent, et notamment avec les images qui se veulent des témoignages, cette relation est organisée par la relation que nous avons d'abord eue avec nos images mentales. puisqu'aujourd'hui, hein, nous sommes tous adultes dans cette salle, donc nous avons affaire à la fois d'un côté à nos images mentales, nos rêveries, nos rêves, et nous les reconnaissons comme telles, puis d'un autre côté, nous avons affaire aux images matérielles que nous voyons, que nous pouvons montrer, hein, que nous pouvons commenter, donc nous avons affaire aux deux, et c'est bien clair. Pour un tout petit enfant, ce n'est pas aussi simple. Les premières images auxquelles il a affaire, ce sont ces images intérieures. Et vous allez voir que la relation que nous avons établie chacun avec nos images intérieures est la clé, reste la clé tout au long de notre vie, de la relation que nous établissons avec les images qui nous entourent. Notre corps est la première machine à fabriquer des images à laquelle nous ayons affaire, et nous en restons définitivement marqués. Et puis, deuxième point important, ces images, les images matérielles, lorsqu'elles vont apparaître, eh bien, nous allons les estimer à l'aune d'un visage. Et je crois que dès que nous abordons la question du témoignage, il faut que nous sortions d'un triangle maléfique. Ce triangle maléfique, ça serait moi, l'image, la réalité. La vraie organisation triangulaire du témoignage, c'est moi, l'image qui se veut un témoignage ou le témoignage verbal et quelqu'un qui authentifie l'image. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Dominique Mel, que François Jost ont fait autant allusion à des émissions dans lesquelles le témoignage est encadré, authentifié par un présentateur. Et je vous parlerai tout à l'heure du journal télévisé. Imaginez un journal télévisé sans présentateur télévisé. Probablement, ça aura un impact bien moindre, hein, parce que le présentateur ne serait pas là pour authentifier les images qu'il vous donne. Donc, cette authentification par un visage, par un regard, hein, est la clé, je crois, de la relation privilégiée que nous avons avec certaines images que nous allons considérer comme un témoignage. Alors, quelques mots d'abord de ces fameuses images mentales que nous nous construisons, qui vont être le repère de nos relations aux images matérielles. Alors, les premières images que nous nous construisons, bien sûr, c'est les images que nous donnent nos sens, hein. Un bébé découvre les barreaux de son berceau. Il comprend très vite qu'il y a des objets qui sont dans son berceau, d'un côté des barreaux, et des objets qui sont à l'extérieur du berceau, de l'autre côté des barreaux. Alors, vous connaissez tous la méditation de Descartes, dans laquelle il dit que quand on met un bâton dans l'eau, on a l'impression qu'il est tordu, mais qu'il ne faut pas croire ce que nous disent nos sens. Oui, quand on est adulte et philosophe. Mais pour un enfant, croire ce que lui disent ses sens, croire les informations des sens, c'est absolument essentiel. Si un enfant ne croit pas ce qu'il voit, il rentre dans un monde de folie. Donc tous au départ, nous avons fait confiance à nos sens, nous avons fait confiance aux premières images que nous donnaient nos sens, et c'est une première raison pour laquelle nous croyons aux images. La deuxième raison, c'est le fait que nous avons tous découvert notre image de nous-mêmes dans un miroir. Alors aujourd'hui, on la découvre aussi sur un écran, hein, puisque nos parents nous photographient, nous filment beaucoup, nous photographient, filment beaucoup les tout-petits. Mais pendant longtemps, c'était dans un miroir. Au bout du compte, ça ne change pas grand-chose, hein, c'est que quand nous découvrons notre image de nous-mêmes, nous croyons que c'est nous. Alors, vous savez sans doute que Lacan a beaucoup glosé sur le fait que c'est une illusion. Oui, c'est une illusion, mais heureusement que nous y croyons, parce que si nous ne croyions pas à cette illusion, ce n'est pas ici que nous serions, c'est à l'hôpital psychiatrique. Donc, nous croyons à cette illusion et finalement, nous en portons pas si mal. Et puis, le troisième moment où nous avons cru aux images, eh bien, c'est le moment où nous avons accepté de croire que nos parents avaient été petits, comme ils nous montraient sur des photos, que nos grands-parents morts ressemblaient à ce qu'ils étaient sur des photos, ou que nous avons cru tout simplement les récits que nous faisaient nos parents. Et vous voyez que là, eh bien, la relation à l'autre était essentielle, mais quel que soit le moment que vous repreniez, le premier, le deuxième ou le troisième, vous voyez que ce qui est important, c'est que trois fois dans notre vie, à un moment essentiel de notre développement, eh ben, nous n'avons pu continuer notre histoire, nous n'avons pu continuer à grandir, à nous structurer, qu'à croire aux images. Donc nous croyons aux images et le problème, c'est que nous devons toujours nous pincer pour nous dire qu'il ne faut peut-être pas y croire autant. Mais ça ne sera jamais fini. Il ne faut pas croire qu'un jour, il y aura une génération qui, parce qu'elle aurait reçu une bonne éducation aux images, pourrait toujours prendre spontanément du recul par rapport aux images. La prise du recul par rapport aux images, elle n'est jamais finie. On a beau savoir rationnellement, intellectuellement, que toute image est un point de vue, émotionnellement, affectivement, du fait de notre histoire, du fait que nous avons été trois fois sauvés de croire aux images, nous revenons toujours dans cette croyance, on pourrait dire dans cette ornière, hein, dans cette, ce n'est pas une impasse, mais disons dans cette tentation de croire aux images. Alors la relation que nous avons avec nos images mentales, elle se caractérise par deux choses importantes. Elle se caractérise par le fait que nous y entrons, ben heureusement, hein, nous entrons dans nos images intérieures, ne serait-ce que la nuit, dans les images du rêve, nous sommes dedans, on se voit de soi-même d'ailleurs des fois, et puis ben nous y sommes totalement immergés, hein, à tel point que nous pouvons y éprouver de la peur, de l'angoisse, de la colère dans nos rêves. Et puis c'est la même chose dans nos rêveries, nous sommes dedans quand nous y sommes. On peut dire de quelqu'un qui est en train de rêver, qu'il est perdu dans son monde, effectivement, on ne voit plus trop ce qu'il y a autour de nous, on n'entend plus, on entre dans ces images intérieures. Mais on ne fait pas qu'y entrer, on les transforme aussi. Et heureusement, parce que si on ne pouvait pas transformer nos images intérieures, ça serait vite un cauchemar. On y entrerait, on ne pourrait plus en sortir. Et ça porte un nom, d'ailleurs, en psychologie, c'est la phobie. Les gens qui ont toujours des images qui s'imposent à eux, et ils voient toujours le même dénouement, qui est en général effrayant, mais ils ne peuvent jamais organiser l'histoire autrement et imaginer un autre dénouement. Donc nous y entrons dans nos images intérieures et nous les transformons à notre gré. Eh bien, la relation que nous avons avec les images qui nous entourent est exactement la même. Nous apprécions les images qui nous entourent à la mesure de la capacité qu'elles nous offrent de pouvoir y entrer et de pouvoir nous y déplacer. Alors, je crois que c'est très important à comprendre parce que, du coup, eh bien, on peut comprendre que l'image fixe, en effet, soit un stimulant beaucoup plus grand pour l'imaginaire. Parce que dans l'image fixe, on peut rentrer en se projetant dans un rôle ou dans un autre, on peut l'animer, on peut la transformer, et donc elle est un matériau beaucoup plus ductible, beaucoup plus malléable, enfin beaucoup plus utilisable hein, pour mobiliser notre imagerie intérieure. L'image fixe, l'image animée, comme je disais tout à l'heure, nous impose un scénario, et ça, c'est un plus difficile à gérer. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand on demande à quelqu'un de raconter un film, il va moins raconter le film que raconter une image qui va lui servir de point de départ pour raconter très vite ses impressions personnelles. Alors, les images sont donc cet espace dans lequel nous entrons, dans lequel nous déplaçons, aussi bien les images intérieures que les images matérielles. C'est pour ça que je dis souvent que les images, c'est un terrain d'aventure. Ce n'est pas un espace d'incertitude, hein, parce qu'un espace d'incertitude, ça voudrait dire qu'elles sont devant nous, que nous les regardons. Non, c'est un terrain d'aventure, nous y entrons. Alors, entrer dans un terrain d'aventure, ça suppose qu'on soit quand même sûr de ne pas s'y perdre. Et c'est là que le visage de l'autre devient si important. Hein. Quand un enfant de 4, 5, 6 ans regarde la télévision ou va au cinéma avec ses parents, il passe plus de temps à regarder le visage de ses parents ou le visage de l'adulte qui l'accompagne, dès qu'il est inquiet, il passe plus de temps à regarder le visage des adultes qui l'accompagnent que l'écran lui-même. Hein. Si vous avez un enfant petit dans votre entourage, mettez-vous devant la télé avec lui, pas un enfant tout petit, un enfant entre 4 et 7, 8 ans, et regardez l'écran, mais en vision périphérique, hein, ayez quand même un œil sur l'enfant, et vous verrez que dès qu'il y a quelque chose qui le malmène un peu, ne serait-ce que des plans trop rapides, des mouvements qui le déroutent, il regarde le visage de l'adulte pour savoir quoi en penser. Le tout petit, il fait non seulement cela par rapport aux images, mais par rapport au monde. Dès qu'un tout petit est un peu intrigué par ce qu'il voit, hop, il regarde l'adulte pour savoir quoi en penser. Alors, c'est resté à l'intérieur de nous. Lorsque nous sommes déroutés par quelque chose, nous regardons le visage de celui qui est avec nous. Et lorsque nous regardons un écran, et que nous sommes seuls devant cet écran, nous allons avoir besoin d'un visage qui va nous servir de repère. Hein, lorsque nous sommes devant un écran, je pense que nous sommes tous un peu dans la situation d'un tout petit qui a besoin qu'un visage perçu comme empathique, protecteur, compréhensif, lui donne la valeur à accorder à ce qu'il voit. Et c'est le rôle du présentateur. Le présentateur n'est pas quelqu'un qui va nous dire ce qu'il faut penser de l'événement, quoique assez souvent il soit tenté de le faire, mais le bon présentateur n'est pas quelqu'un qui va donner un mode d'emploi cognitif. Le bon présentateur est quelqu'un qui va donner un mode d'emploi émotionnel. Il va, par ses attitudes, ses mimiques, ses intonations, dire si l'événement est plutôt angoissant ou plutôt rassurant. C'est un mode d'emploi émotionnel. Alors évidemment, il va y avoir aussi un mode d'emploi cognitif qui va souvent être très simplifié, mais qui va lui être plutôt dans le reportage. Le mode d'emploi émotionnel, ça va être le visage du présentateur. Donc vous voyez qu'on retrouve là, dans notre relation au témoignage, cette importance capitale du regard et du visage d'un tiers, d'un tiers en situation parentale, pour nous donner le mode d'emploi de ce que nous voyons. Alors, la question de Daniel porte sur l'éthique du témoignage. Je crois que dès qu'un témoignage s'accompagne de cette forme d'authentification par empathie, elle court-circuite nos processus de compréhension personnelle. Et je pense que l'usage du gros plan empathique lorsqu'il s'agit d'un témoignage est peut-être à être questionné comme une source toujours possible de mystification du spectateur. Alors, merci de votre attention.
Alors, nous avons trois exposés très riches, très provocateurs, et malgré tout, oui, puisque le fait de récuser comme maléfique le triangle moi, l'image, la réalité. Il me semble que la réalité ne disparaît pas du simple fait d'être authentifié. Et que, donc, on passe d'un triangle à un quadrilatère. Oui. Oh, pardon. On passe d'un triangle à un quadrilatère. Donc, il y a effectivement une provocation, me semble-t-il, dans chacune des présentations. Et peut-être que l'un des éléments très importants qui s'est dégagé, c'est la façon dont il y a une sorte de mise en abîme du témoignage. Pratiquement dans tous les exposés. Le témoignage est surplombé par le regard rassurant ou inquiétant de celui qui le présente. Il y a un témoignage du témoignage ou un témoignage de témoignage dans la première des présentations. Et enfin, dans la présentation de François, il y a toute une idée du casting des témoins qui consiste à leur assigner un certain rôle et à les choisir de façon à être sûr de leur adéquation au rôle qu'on leur a choisi. Donc, il me semble que je ne veux pas en dire plus. J'ouvre la discussion.
Bon, j'espère m'expliquer. Si on pousse un peu plus loin la discussion, il faut demander pour le grand public, pour les téléspectateurs, qu'est-ce qui se passe dans cette situation des expressions très complexes maintenant de témoignage sur beaucoup de niveaux. Et je crois qu'il y a une réponse des téléspectateurs, c'est de devenir... Ils se semblent comme les récepteurs des communications, des tentatives de communication multiples. Et ça veut dire que ces tentatives, ils ne marchent pas de temps en temps. Les spectateurs, ils deviennent de plus en plus sceptiques de ce qu'ils voient sur la télévision. Ils se demandent toujours, est-ce que ces gens sont si sincères? Est-ce que ces images sont vraies? Qu'est-ce qu'il y a au coin de cette image? Comment est-ce que cette image a été produite? Et donc, nous avons une évolution de la part de la grande public. Ce n'est pas la grande public des années 70 comme ça. C'est un grand changement qui s'est passé, surtout parce qu'il y a des émissions, comme nous a dit Dominique Mel, les émissions qui parlent d'une façon différente, une façon plutôt personnelle. Et maintenant, nous avons tous ces discours qui se mêlent partout dans la télévision. Et donc, l'attitude de voir la télévision est changée. Et j'espère que je m'exprime bien.
Réagir.
Oui, effectivement, les spectateurs aujourd'hui sont beaucoup plus attentifs à capter les signes d'authenticité que par le passé, mais les intervenants sont beaucoup mieux formés à donner des signes d'authenticité inauthentiques. Voilà. Donc, malheureusement, la nouvelle attitude des spectateurs ne suffit pas à les prémunir de toutes les manipulations qui restent bien présentes. Mais c'est vrai que le point de vue du spectateur a évolué, mais les présentateurs ont aligné sur cette évolution.
Excusez-moi, mais je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous. Je crois que c'est une attitude... Euh, C'est vrai, c'est-à-dire que moi, mes étudiants en communication, ils comprennent mieux les images sûrement que quand il n'y avait pas d'études de communication. Mais c'est pas, on n'est pas partout à Paris, on n'est pas tout le temps dans les quartiers, on n'est pas tout le temps à Beaubourg, et j'ai des expériences du public aussi qui sont très différentes. Alors, on peut affirmer l'un, on peut affirmer l'autre, on peut faire ce qu'on veut. En fait, on n'a pas vraiment d'études très concluantes là-dessus. Ce que je remarque, en tout cas, c'est que dans le monde entier, d'après ce que j'ai lu des collègues qui travaillent tous sur Big Brother, par exemple, dans le monde entier, la question de savoir si les gens qui sont dans ces émissions sont sincères ou non, jouent un rôle ou non, c'est une discussion dans tous les pays. Et donc, malgré... Et pourquoi ? Parce que, si vous voulez... Ce qui est difficile à penser pour les images, c'est que les images, contrairement justement à ce que pensait la première sémiologie, elles ne marchent pas qu'avec des codes. Elles marchent avec tout ce qu'a dit Barbie Zelizer tout à l'heure, que j'approuve complètement, qui est le travail de l'imagination, qui est la culture de chacun, qui est l'analyse des images qu'il a pu faire, etc. Donc, si vous voulez, on ne peut pas véritablement, face à des images de n'importe quelle vedette de la télé-réalité qui est en train de jouer quelque chose, il n'y a pas de lecture juste qui consisterait à dire « je lis les codes et là je vois qu'il est en train de mentir ». Parce que c'est pas plus, vous ne pouvez pas plus le voir que dans la vie si vous êtes en train de me mentir. Je vais dire « oui, il écarquille un petit peu la pupille des yeux, donc je sais qu'il me ment ». Mais comme ça peut m'échapper, vous pouvez me mentir quand même.
Olivier ?
Je voulais poser une question et j'espère que ça va aller dans le sens souhaité par Daniel Dayan de rejoindre les préoccupations éthiques. Je me demandais si la meilleure façon d'éduquer les jeunes, enfin nos enfants par exemple, ça ne serait pas de leur conseiller de comparer ce qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils entendent à la radio et ce qu'ils lisent dans les journaux, et de leur montrer déjà au minimum comment une sélection s'opère et dans le choix des événements qui sont montrés et dans la manière dont on les traite. Alors, je voulais savoir s'il y avait eu des études là-dessus et ce que vous en pensez.
Moi, je pense que oui, vous avez raison. Il y a un exercice que je fais souvent aussi avec mes étudiants, c'est l'exercice inverse, hein, on peut dire. On part de plusieurs journaux télévisés, puis trouver la dépêche qui est dessous. C'est reconstituer quelle était l'information de départ minimale, si vous voulez. Mais bien sûr, oui, je pense que c'est une très bonne méthode, ça.
Alors, ceci dit, elle est malheureusement applicable seulement s'il y a des sources d'information diversifiées. Lorsqu'un pays est totalement bouclé par un régime dictatorial et qu'on a quelques images et un seul commentaire, on peut lire toute la presse et regarder tout Internet, on n'aura que ça.
Ceci dit, si je peux proposer une autre approche, c'est celle qu'a pratiquée Marc Ferraud et qui portait précisément sur ce qui se passe dans des régimes dictatoriaux. Et c'est qu'il me semble que lorsque l'on a affaire à une télévision qui pratique un peu plus l'oblitération qu'elle ne pratique l'exploration, l'oblitération n'est jamais totale. Elle est plus de l'ordre du refoulement que de l'ordre de l'élimination pure et simple. Et que dans des images qui sont soumises à l'oblitération, il reste toujours des traces de ce que l'on entendait ne pas montrer ou de ce que l'on entendait soumettre à un format. Et je pense que de ce point de vue, la technique est une technique très simple qui est finalement à la base de ce que Barthes enseignait, qui consiste à regarder l'image plusieurs fois et à un rythme différent de celui auquel elle demande à être regardée. Et à ce moment-là, les images très souvent faussent compagnie au discours qui les encadre. Et il me semble qu'il existe tout simplement une sorte de comme j'allais dire, une technologie mentale du voir ou du revoir. Et une recherche, très souvent les images contiennent des indices, et il est facile de remonter depuis ces indices jusqu'au récit qui les encadre, et de voir si les indices et le récit correspondent l'un à l'autre ou ne correspondent pas l'un à l'autre. Donc c'est une autre méthode pédagogique qui a l'avantage d'être très simple, et peut-être de demander moins d'efforts comparatifs et moins de dispositifs plus coûteux.
Merci, donc ça marche. Voilà, je voulais poser une question parce que on a beaucoup parlé effectivement des médias traditionnels et notamment dans la question de une des dernières questions qui a été posée par rapport aux jeunes. Il y a maintenant la montée d'Internet et on s'aperçoit, il y a des statistiques que dans les jeunes générations, ils passent maintenant beaucoup plus de temps à regarder Internet que la télévision traditionnelle, en particulier et aussi une bonne partie du temps des jeux vidéo. Et Internet pose justement une question, des questions au cœur des débats d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'authenticité, la réalité, etc., de ce qu'on peut voir. Moi, personnellement, je me sers d'Internet d'une façon un peu scientifique et je n'y trouve jamais des réponses satisfaisantes. Je suis obligé de retourner dans des livres que je possède dans ma bibliothèque et qui sont signés par des auteurs pour donner des réponses. Étant donné que je suis journaliste, j'ai des réponses à donner quelquefois. Et la réalité donc qui est posée par Internet et la vérité qui est posée par Internet, c'est à mon avis une des questions les plus importantes qui est aujourd'hui. Alors, on a effectivement la question de la véracité, on a aussi la question de l'éthique, parce que à l'heure actuelle, on s'est aperçu que même quelques grands journalistes au cours de ces dernières années se sont complètement plantés dans leur information en distillant sur des grands médias des informations qu'ils avaient trouvées sur Internet et qui se sont trouvées fausses. Donc il y a un problème effectivement de l'éthique et de l'authenticité et de la vérification des sources qui se posent à l'heure actuelle. Et je pense que ça doit être mis un peu au cœur de ce débat.
Oui, de la même façon qu'on disait tout à l'heure, inviter des étudiants, des élèves à croiser des sources. Ils peuvent même ne travailler que sur Internet par petits groupes et revenir chacun avec des devoirs collectifs, donc réalisés par 3-4, des devoirs collectifs complètement différents les uns des autres parce qu'ils auront tous pris un type d'information sur Internet sur le même événement sans les comparer. Donc ça, c'est très formateur pour eux. Ne travailler qu'avec Internet et travailler par petits groupes et tous par billes en tête sur un site, Wikipédia par exemple, et ils ne vont pas chercher autre chose et ils se plantent. Donc il faut en effet multiplier aujourd'hui les exercices comme ça pour relativiser l'impact d'Internet. De façon générale, il faudrait écrire toujours au-dessus de tous les ordinateurs qu'il y a dans les institutions, notamment les écoles, tout ce que vous trouvez ici tombe dans le domaine public, rien de ce que vous trouvez ici n'est absolument vrai, absolument faux.
Non, enfin, je pense qu'on peut dire ça de n'importe quoi, c'est-à-dire que dans les bibliothèques, il y a bien des livres qui disent des conneries, je veux dire, il faut aussi être très méfiant hein, sur les livres.
Je voudrais reprendre aussi cette question.
Il n'y a pas que Wikipédia. Je veux dire, moi, je me sers beaucoup d'Internet et j'y trouve des informations que je trouve extrêmement fiables. Il suffit simplement d'aller dans les bons endroits, les bons auteurs et les bonnes sources. Oui. Les livres aussi. Hein. Je veux dire, ça dépend quel livre on utilise. Maintenant, ce qui m'intéresse plus, en revanche, du point de vue de l'éthique des médias, c'est de voir que ce qu'a permis Internet, c'est le fait que des amateurs bidonnent à peu près de la même façon que les médias, ce qu'on reprochait aux médias avant. Et ça permet, pour moi, de relativiser, si vous voulez, la diabolisation des médias que j'ai toujours trouvé pas intéressant, pas productive. Les téléspectateurs ou les spectateurs ou les utilisateurs d'Internet bidonnent très très rapidement, dès qu'ils peuvent, aussi rapidement que les médias. Donc ça veut dire que c'est notre attitude par rapport aux images qui doit être interrogée et non pas l'emprise forcée des médias.
Il y a deux candidats ici au micro. Peut-être que pendant que le micro parvient, je vais essayer de glisser un mot moi aussi sur cette question. Et j'ai un ami qui a écrit que si le journalisme n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et je pense que c'est tout à fait juste, mais la question est de savoir, précisément maintenant que nous savons qu'on peut bidouiller à peu près la même chose avec Internet, s'il faut inventer le journalisme, il faut inventer quoi ? C'est quoi le journalisme qu'il faut inventer ? D'où la nécessité, me semble-t-il, d'un discours normatif sur le journalisme qui se sortent d'un certain nombre d'ornières. Et parmi ces ornières, il y a l'ornière absolument, me semble-t-il, maléfique, pour reprendre le mot de Serge, de l'objectivité et de la subjectivité. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu toutes sortes de débats avec des journalistes qui me disent « mais après tout, je suis un homme, je suis subjectif », et il me semble que c'est très intéressant que finalement, sa subjectivité, j'en ai rien à foutre. Il me semble que, bien sûr qu'il est un être humain, et moi aussi, mais il me semble que le journalisme est une performance étrange, une performance aussi étrange que le théâtre kabuki. Et la question est de savoir comment en est-on arrivé, comme dirait Brecht, à trouver une performance aussi étrange, cette sorte de narrativité répétée de jour en jour, et la façon dont cette narrativité s'organise, naturelle. Et je pense que le journalisme n'a rien de naturel. Il faut essayer de définir en quoi consiste la performance et, par exemple, lui fixer des règles assez précises. Et je pense que parmi les règles précises, il y a la question de la création d'un monde commun. Comment arriver, le rôle du journalisme peut se définir par comment créer un monde commun et comment s'arranger pour que ce monde commun repose sur une factualité, sur une vérité factuelle, et que cette vérité factuelle soit liée au processus et rende possible le processus de la discussion. Et il me semble que parmi un certain nombre des discussions qui ont eu lieu autour de cette table, ce soir, dans cette séance, il y a eu sans arrêt la référence à un certain nombre de procédés subreptices qui permettaient de passer d'un registre à un autre registre sans réellement l'annoncer. Et il me semble que ces procédés subreptices, et par exemple l'utilisation du témoin, sont très souvent des moyens de bloquer la discussion. Comme l'a dit Dominique Mel tout à l'heure, comment répondre à, par exemple, la mère d'un kamikaze qui vous dit « c'est mon expérience, je parle de ma subjectivité c'est que mon enfant est un enfant merveilleux, et regardez, je suis effondré, je suis quelqu'un dont vous ne pouvez pas contester la douleur ». Et bien sûr qu'on ne peut pas contester sa douleur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé quelque chose qui relève de l'information du côté de quelque chose qui relève du témoignage. Et le témoignage, dans ce cas-là, a une certaine vertu qui est d'interrompre et de couper la discussion, de rendre la discussion impossible. Et je pense qu'il est très important d'essayer de définir quelle est l'éthique de la monstration qui préside aux nouvelles, et c'est à partir de cette éthique qu'on peut définir ce que c'est que la performance du journaliste et qu'est-ce que c'est que la bonne performance et qu'est-ce que c'est que la mauvaise performance. Et si on ne le fait pas, il me semble que l'énorme danger, c'est que les journalistes perdent de l'audience jour après jour. Les gens s'intéressent de moins en moins aux journaux parce qu'à un moment donné, ils vont se demander en fait, en quoi est-ce que le journal que je lis est véritablement meilleur que ce que je pourrais trouver sur Internet ? Et il me semble que, d'une certaine façon, une conférence ou un colloque comme celui-ci est une certaine façon de sauver le journalisme. C'est-à-dire que si le journalisme ne se donne pas une nouvelle définition, et une définition normative et une définition ambitieuse, il est en train de couler. Excusez-moi d'avoir parlé un peu.
Je ne sais pas si... Oui, c'est bon. Rebonsoir, puisque j'ai déjà posé une question à la première séance. Donc... Sur cette séance, moi, j'aimerais dire plusieurs choses. Je ne me lève pas parce que ça fait un peu grandiloquent. Je suis très petite, donc de toute façon, ça sera, reviendrait au même. Donc, voilà. Alors, la première chose, c'est que j'ai eu une expérience. Moi, j'aime bien partir du terrain, de mon terrain à moi, et qui était avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est mon fils. Et très récemment, on était à Bruxelles. On a fait un week-end ensemble. Et on était sur cette merveilleuse place pour vous parler d'Internet. Et c'est quand même un gamin, bon, ça va, quoi. Et on a un rapport super sympa. Et il m'a dit, oh zut, alors le jour commençait à baisser et la nuit commençait à arriver. Et c'est quand même l'endroit où Dubuffet voulait avoir sa salle à manger. C'est un très bel endroit. Indépendamment de ça, c'est magnifique. Et il m'a dit, bon, c'est pas grave, je peux pas prendre la photo, mais c'est pas grave, il y a Internet. Donc ça vient d'un gamin qui vient, bon, on va dire, avec une certaine forme de réflexion. Et je me suis fâchée très rouge en lui disant « ça ne remplacera pas ce que tes yeux voient ». Ça, c'est pour Internet et puis aussi ce qu'on recueille sur Internet. Parce que Internet, moi j'y suis venue, je suis un peu un dinosaure, parce que moi j'ai d'abord commencé à taper à la machine, puis après il y a eu l'ordinateur le tout petit, et après le grand, et après un. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'Internet peut apporter, mais et moi je m'en sers, je suis journaliste quand je veux, si je veux, je m'en sers, mais je trouve que c'est, même dans les sites les plus fouillés, les plus importants, rien ne vaut aller vérifier dans un livre. Parce que le livre, moi j'étais à l'école du livre, à la Sorbonne, avec des grands profs, et d'ailleurs je pense que Monsieur Tisseron ne dira pas non, on vous parle dans un livre, on est interactif, on vous dit, on dialogue avec les phrases, avec les mots, et donc je pense que c'est très important. Pour en revenir au journalisme actuel qui me fait mal, moi aussi, parce qu'il y a deux types de journalisme, très clairement. Il y a les journaleux, qui ont toujours existé, qui étaient les journalistes de faits divers, à l'époque c'était « fais-moi un petit papier coco sur le monsieur qui grimpe avec une jambe tout en haut du toit ». Et ça, ceux-là, ils existent toujours. Ils font d'ailleurs partie, pas forcément souvent, mais des ces journaux, vous n'avez pas parlé des journaux gratuits. Moi, c'est la première fois depuis une dizaine d'années que je vois des gens lire dans le métro et qui n'étaient pas les gens qui lisaient avant dans le métro. Donc, il y a une nouvelle catégorie sociologique de gens qui lisent dans le métro ce qui s'est passé ce jour-là. Moi, je trouve ça un peu formidable. Et c'est d'où là, d'ailleurs, d'où le danger de ces journaux, parce que là, il faut vraiment pas qu'ils déconnent, quoi. Je veux dire, excusez-moi pour le mot vulgaire, mais après, ce que je voulais dire également, c'est que le journalisme pur, entre guillemets, si pureté il y a, si vérité il y a, parce que vous disiez très bien tout à l'heure que la vérité, c'est de douter. Hein, et je ne l'ai pas inventé, c'est d'autres qui l'ont inventé. Donc je voulais dire par là, pour répondre aussi à Monsieur Rollin, Rollin, c'est ça? Excusez-moi. Olivier. Pardon? Voirol. Excusez-moi. Moi, j'ai suivi votre discours. J'y arrivais difficilement, mais j'y suis arrivée quand même. Et, non, mais je dis pas ça, j'ai aucune envie de provoquer. Simplement, je voulais vous dire une chose, c'est que, je crois qu'il y a plus de journalisme d'investigation. Parce que moi, j'ai travaillé dans l'édition et on payait les gens pour aller faire des livres du temps de Skira. On payait les gens pour aller faire des livres d'art. C'est-à-dire, on leur payait le voyage. Et on leur payait une exploration. Aujourd'hui, demander, alors, vas-y Coco, je te paye très cher, c'est dans Paris Match, mais pas dans tous les journaux. Donc merci aujourd'hui, madame, le journalisme...
Je pense que vous devriez maintenant, peut-être, vous avez posé des questions à un certain nombre d'entre nous, je pense qu'ils seront très heureux de vous répondre. Et Monsieur Voirol, non ?
Oui.
Non, alors dans ce cas, il y a d'autres questions. Marie-Josée Monzin.
Est-ce que je souhaiterais poser une vraie question? Alors, vous avez dit tout à l'heure que quand on regardait l'image, il y avait des méthodes qui permettaient de se prémunir, etc. Moi, je pense au chantier de Timmy Chahora. Et il y avait un commentaire qui nous disait des choses, et puis des images qui en montraient une autre, et il y avait finalement aucun... Enfin, bon, c'était carrément complètement faux. Qu'est-ce qui nous permettait à cet instant-là de nous prémunir contre ce commentaire officiel de la télévision ? Bon, je vais quand même faire une réflexion. Je crois qu'Internet, c'est comme la langue, la meilleure et la pire des choses, et qu'on y trouve de tout.
Oui, mais c'est une bonne question, parce que moi, je peux vous répondre, parce que je l'ai vue, cette image, au moment où elle a été diffusée. Et j'ai entendu qu'il y avait 12 000 morts à Timișoara, c'était Daniel Bilalian qui disait ça. Et j'ai dit à ma femme qui se trouvait à côté de moi, moi je n'en vois que 9. Et voilà, elle m'a dit, écoute, tais-toi, tu n'es pas en train de faire cours à l'université, pour l'instant, il y a des choses graves, tu ferais mieux de... Bon, et quelques jours après, je lui ai dit, tu vois, j'avais raison, il y avait que 9 morts et c'était pas les bons en plus. Donc voilà, on peut se prémunir simplement en regardant ce qu'il y a dans les images.
Je voudrais évoquer une situation et recueillir vos réactions. C'est une situation télévisuelle un peu ancienne, puisqu'elle a 15 à 20 ans. Et je travaillais dans un centre de soins pour les victimes de torture des exilés qui venaient en France. Ça marche, ça, oui?
Oui, bon. Non.
Nous avons été, à l'époque, ce centre donc médical, nous avons été saisis de plusieurs demandes de chaînes de télévision pour faire des témoignages, pour procurer des témoignages sur ce que nous entendions et voir ces fameuses victimes qui, semble-t-il, intéressaient vraiment beaucoup de monde. Alors nous, l'équipe, on a commencé à avoir à se poser des cas de conscience en se demandant, mais au fait, est-ce que ça se fait ou pas? Est-ce que c'est bien de le faire ou pas? Évidemment que l'accord des personnes qui auraient été interviewées était une première condition. Mais au fond, qu'est-ce qu'on va faire en donnant à la télé des images de gens qui ont été torturés, qui sont soignés, qui sont dans un parcours individuel par ailleurs? Bon, à quoi ça va servir? Bon. On a commencé par refuser et par dire, écoutez, votre appétit pour ce que l'on fait, nous, on n'a pas très envie. Et puis, il y a eu beaucoup d'insistance. Et finalement, on a accepté de participer, alors l'équipe des soignants, mais également donc les patients, certains des patients qui étaient reçus là, à une émission d'envoyé spécial, hein, et où nous avons donné un espèce de cahier des charges de nos exigences, hein, qui était passer plus des photos d'archives, des images d'archives, des événements dans les pays où se sont passés, d'où viennent les gens que nous voyons. Bon, images floutées des personnes qui veulent parler, des témoins. Et ça, moi, j'aimerais avoir vos réactions sur ce que vous pensez des images floutées. Voilà, c'est pour faire part d'une espèce de grand malaise dans laquelle on a été en se disant on y va pas. Si on y va, on y va comment? Alors c'est peut-être un débat, enfin c'est peut-être des considérations anciennes et parfaitement caduques, sauf qu'elles touchent à l'éthique du témoignage, hein, puisque ça a au moins 15 ans, ça. J'aimerais savoir ce que ça vous suggère, la façon dont on s'y est pris pour répondre à une demande télévisuelle.
Je pense que c'est une question très, très difficile et qui est à la fois très intéressante. Enfin, vous avez raison de la poser. Parce qu'en fait, ça renvoie... Souvent, on a des débats... Enfin, moi, j'ai des débats avec des journalistes du JT sur, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une information ? C'est ça, en fait, la véritable question. Parce que on montre des tas d'images atroces au nom d'informations. Hein, c'est ce que vous dites en général. Vous disent les journalistes quand ils montrent des images de gens qui ne savent pas, qui n'ont pas conscience, par exemple, qu'on montre quelque chose de ridicule d'eux ou d'une souffrance, etc. Les journalistes vous disent souvent, c'est une information, donc je suis obligé de le montrer. Alors c'est là qu'à mon avis, c'est à partir de ça qu'on peut réfléchir. Je suis pas sûr que ce soit une information. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, par rapport au ce que j'appelais le jugement analytique, une fois qu'on a décrit par des mots tel ou tel cas pathologique ou telle souffrance, il n'est pas sûr que montrer l'image après apporte quoi que ce soit. Moi, j'en suis pas du tout certain. Et je crois que c'est la frontière où commence l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut dire, à partir du moment où une image n'apporte pas d'informations nouvelles, elle n'est là que pour l'émotion, et dans ce cas-là, peut-être qu'on peut s'en passer.
Oui, je suis obligé d'arrêter la séance parce que nous avons déjà débordé un petit peu sur la séance suivante. Il va y avoir une pause et peut-être que je pourrais ajouter à ce que dit François Jost que l'un des grands problèmes de la pitié, c'est qu'elle ne sait compter que jusqu'à 1.